s'agissait d'étudier donc ce que c'est que l'appréhension, cette opération qu'on a découvert, je ne reviens pas dessus, mais cette opération enfouie, qui n'est consciente que par le jugement, que nous ne pouvons que distinguer, ne jamais isoler, et nous essaierons de comprendre ensuite comment, quand on isole l'appréhension du jugement, on aboutit à certains aspects idéologiques. C'est ce que je voudrais montrer au niveau critique. Parce que c'est toujours très important de comprendre comment les idéologies contemporaines se sont développées et comment les idéologies contemporaines ont comme origine, comme grand-père, des théologiens. Il ne me fait pas plaisir de le dire, mais c'est pourtant la réalité. Alors, il s'agit de comprendre ce que représente cette opération enfouie dans le jugement qu'on décèle, qu'on met en pleine lumière, en critique, et qu'on essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que cette opération. Alors, je vous ai dit la dernière fois, assimilation intentionnelle. Cette assimilation intentionnelle est donc la première opération vitale. Elle implique une assimilation, quelque chose qui au point de départ est autre et au terme est un. C'est ça le problème de toute assimilation. L'assimilation, c'est le vivant qui fait qu'au point de départ, il y a deux, il y a le vivant et l'aliment. Regardez, n'importe quel animal manger une carotte. Vous voyez bien qu'au point de départ, ce n'est pas l'animal qui est une carotte qui mange la carotte, mais c'est que l'animal va transformer la carotte en lui. C'est pour ça que la carotte prend des aspects très différents suivant qu'elle est assimilée par tel ou tel vivant. C'est très important de saisir que le vivant devient la mesure de l'assimilation. Très important au niveau nutritif. Au niveau nutritif, vous voyez, nous sommes là en face de la subjectivité transcendantale du vivant. C'est intéressant de voir le premier analogué, quoi. Il faut saisir le premier analogué. Le premier analogué de la subjectivité transcendantale du vivant, c'est le vivant de vie végétative qui assimile la carotte. Et il la transforme en lui. Et il donne à la carotte une nouvelle signification. La matière, la carotte est uniquement indéterminée. Il la mange. Et elle a une nouvelle signification, la signification du vivant, de vie végétative qui a assimilé cette carotte. C'est quand même curieux de voir ça. Premier analogué, du vivant mesure de l'objet. Aristote n'hésite pas de dire que l'aliment, c'est le premier analogué de l'objet. Il ne faut pas l'oublier. C'est très intéressant de voir ça. Le premier analogué de l'objet, c'est l'aliment. Or, le vivant est mesure, la mesure, au sens très très fort, il l'assimile vers lui. Et l'aliment n'est aliment que quand il est assimilé. Avant, il est en puissance. Quand il est assimilé, il est en acte. Mais à ce moment-là, il est transformé dans le vivant de vie végétative. Qu'il assimilait. Alors, vous voyez, la carotte devient éléphant, la carotte devient hippopotame, la carotte devient homme. C'est la subjectivité transcendantale du vivant de vie végétative. Ça, on est au niveau de la vie végétative. Si je suis au niveau de la connaissance sensible, j'assimile sans changer. Et la très grande transformation, c'est que c'est l'objet qui détermine. Ce n'est plus la subjectivité transcendantale de la vie végétative. Le vivant de vie supérieure doit accepter de recevoir de l'aliment, ce qui est son aliment, c'est-à-dire l'objet, doit recevoir sa détermination. Alors on dira, il est donc de vie beaucoup moins supérieure. C'est intéressant de voir les degrés de vie à ce point de vue-là. Vous voyez, dans le degré de vie végétative, le vivant impose sa détermination, impose sa finalité. Et c'est lui qui exerce ce mouvement à partir de lui. Dès que je suis en présence d'une vie sensible, le vivant pâtit. C'est pour ça qu'Aristote insiste tellement sur le topaskein. La sensation implique une réceptivité. Je reçois de l'objet la détermination de l'objet. Je reçois de l'objet sa spécification. C'est l'objet qui spécifie. C'est la couleur qui spécifie ma vision. Ce n'est pas ma vision qui change et qui impose à la couleur sa détermination propre, c'est l'inverse. Ça, je peux le constater. La preuve, c'est que tous, lorsque nous regardons la même réalité, ben, nous voyons quelque chose de distinct. Vous allez me dire, c'est analogue à la carotte. On est 30 à manger une carotte, on dit, c'est une carotte. Donc, il y a le même goût. Et donc, l'aliment impose quand même quelque chose, oui. Mais au terme, la carotte est identifiée aux individus. Tandis que quand il s'agit de l'assimilation sensible, je suis en présence de fait de cette détermination qui provient des couleurs, des réalités qui sont autres que moi, et qui me détermine, me spécifie. Je suis devant une assimilation intentionnelle. Voilà ce que nous disons pour bien comprendre ce fait que la détermination ne vient plus du sujet vivant, mais vient de la réalité autre. Mais un vivant de degré supérieur respecte plus l'autre qu'un vivant de niveau inférieur. C'est très intéressant de voir ça dans une communauté. Les vivants de degré inférieur respectent moins l'autre que les vivants d'un degré supérieur. Je crois que c'est très vrai. Très bon principe politique. Ce serait extraordinaire de voir ça. Et ça va très loin. Le vivant de degré supérieur respecte l'autre, la sensation. Et l'intellection respecte l'autre, puisqu'elle reçoit la détermination de l'autre. Vous voyez, c'est au fond une des manifestations d'une supériorité de la vie, ça. De pouvoir utiliser l'autre sans le détruire. Détruire l'autre pour l'utiliser est un signe d'infériorité. C'est un signe de potentat. Ce n'est pas l'autorité, c'est le pouvoir. Et on pourrait dire que la vie végétative a un pouvoir sans avoir d'autorité et que la vie sensible a une autorité sans avoir de pouvoir. On ne détruit pas l'autre, mais on l'utilise. Puisque je suis changé, je suis modifié par l'autre. Je suis modifié par l'objet qui me transforme. Je suis modifié par la couleur. Je suis transformé par la couleur. Je pâtis. Et lorsqu'il s'agit de la connaissance intellectuelle, c'est encore beaucoup plus fort. La connaissance intellectuelle respecte encore plus profondément ce qu'elle connaît, sans le détruire. Et elle est modifiée, il y a un topaskein qui se fait aussi. Je pâtis au niveau sensible, je pâtis au niveau intellectuel, pour être transformé par l'objet qui me transforme, qui me détermine. C'est ce qu'on appelle l'assimilation intentionnelle. Alors, je vous avais expliqué un tout petit peu ce que c'est que l'intentionnalité. Je ne vais pas revenir dessus, hein, parce qu'il n'y a pas de question. Alors, je ne reviens pas dessus, sur l'intentionnalité. L'intentionnalité, c'est donc quelque chose qui implique un ordre vers, c'est quelque chose qui est toujours second, qui n'est jamais premier, et qui implique simplement l'ordre vers l'autre, dont il dépend. Alors, vous avez une intentionnalité au niveau sensible, vous avez une intentionnalité au niveau intelligible, vous avez une intentionnalité au niveau affectif. Vous avez une intentionnalité au niveau affectif volontaire ou au niveau passionnel. Vous avez une intentionnalité au niveau imaginatif. Ce qui serait intéressant, c'est d'étudier ces diverses intentionnalités à ces différents niveaux. Ce serait très intéressant pour bien comprendre la diversité de ces intentionnalités et mieux saisir ce qu'est l'intentionnalité husserlienne.
L'intentionnalité husserlienne est réciproque. C'est à la fois l'autre et moi-même. C'est très intéressant de voir ça. Au fond, c'est une intentionnalité qui existe au niveau de l'amour d'amitié. Au niveau de l'amour d'amitié, l'intentionnalité est réciproque. L'ami, en tant que mon bien, détermine mon intention vers lui, mon choix vers lui. L'ami, en tant qu'il m'aime, modifie l'exercice de mon acte. Donc, l'intentionnalité est réciproque dans l'amour d'amitié. Il y a une intentionnalité double. Une qui provient du conditionnement, qui peut aller très loin, puisque ça peut même modifier la spécification, et l'autre qui regarde le point de vue du bien et le point de vue de la fin. Ces deux intentionnalités se croisent constamment. Et bien, ce qui est très curieux de voir chez Husserl, parce que c'est très intéressant de voir cela, parce que c'est peut-être par là qu'on peut mieux saisir les confusions qui peuvent exister dans la phénoménologie. C'est au niveau de l'intentionnalité, c'est la coupe de l'intentionnalité qui me permet de saisir exactement ce qu'il y a d'intéressant dans la position husserlienne au point de vue de l'intentionnalité et en même temps ce qui la distingue de l'intentionnalité d'une philosophie réaliste. On a l'impression que c'est l'intentionnalité, sans que ce soit dit, hein, que c'est l'intentionnalité affective qui va tout commander. Vous voyez, je fais le parallèle. Aristote, quand il critique Platon, dit que Platon, le platonisme serait vrai si toutes les réalités que nous voyons autour de nous étaient des œuvres d'art. Eh bien, je dirais, la vision husserlienne serait vraie si toutes nos connaissances étaient des connaissances affectives. La connaissance affective implique une réciprocité dans l'intentionnalité. Alors c'est très curieux, parce qu'alors il veut faire ça au niveau des sciences, alors qu'on est très loin de l'affectivité. Alors d'où ça vient, ça? C'est intéressant de voir d'où ça vient. Alors est-ce que ça vient que, de fait, le point de vue de la phénoménologie est né très fort avec le point de vue des valeurs, avec le point de vue de la cause exemplaire? Alors, est-ce que dans la causalité exemplaire, n'y a-t-il pas aussi réciprocité? Je le prends du côté de l'affectivité, de l'amour d'amitié, parce que là, la réciprocité est très nette. On ne peut pas voir une intentionnalité au niveau de l'amour d'amitié sans voir la réciprocité. C'est impossible autrement. Est-ce qu'au point de vue artistique, y a-t-il quelque chose d'analogue? Vous voyez, il y a une certaine réciprocité dans le point de vue artistique, en ce sens que le projet de l'artiste se modifie en fonction des résistances de la matière, en fonction des résistances de l'instrument. Il y a une certaine modification, mais ce n'est pas réciproque, c'est plutôt une limitation qu'une réciprocité. Il me semble, ça, il faudrait regarder, ce serait intéressant à voir. Là, je vous donne simplement une piste, je ne veux pas entrer dans le problème, mais c'est intéressant. Dès qu'on creuse un problème, il faut tout de suite voir dans d'autres philosophies comment ce problème a été transposé et comment ce problème existe aussi, et cependant d'une autre manière. Pour ne pas faire de syncrétisme et en même temps essayer de comprendre les positions parallèles. Vous voyez, c'est très intéressant de voir dans la philosophie husserlienne cette réciprocité. Vous retrouvez ça chez Merleau-Ponty, exactement la même chose. Chez Merleau-Ponty, vous retrouvez, puisque Merleau-Ponty dépend très très fort de Husserl, le premier Merleau-Ponty, le Merleau-Ponty de la phénoménologie de la perception, le premier Merleau-Ponty qui dit dans quelques pages, hein, ceux qui veulent avoir un petit résumé extrêmement limpide de ce que c'est que la phénoménologie et de ce que c'est que l'intentionnalité de la phénoménologie, c'est dans la préface de la phénoménologie de Merleau-Ponty sur la phénoménologie de la perception. Ça, c'est très bon. Et alors, il nous montre bien là que, de fait, il y a une réciprocité dans l'intention. Il y a une réciprocité dans l'intention et que, dans l'intentionnalité, il y a une réciprocité. Et je ne peux pas saisir une intentionnalité sans cette réciprocité. Ce qui fait dire que je donne à l'objet, je donne le sujet donne à l'objet sa spécification et que l'objet est condition de la spécification que le sujet donne. C'est très curieux, quoi. Vous voyez, vous pourriez faire l'analogie que je faisais tout à l'heure au point de vue de l'amour d'amitié. Hein? Amour d'amitié, parce que c'est intéressant à voir. L'amour d'amitié, l'amour de l'ami, numéro un, ils sont toujours deux. Hein? L'amour de l'ami regarde le bien de l'ami, numéro deux, son bien propre, son bien personnel. Et quand l'ami se met à aimer, donc l'amour du numéro deux à l'égard de l'amour un, va d'une certaine manière modifier, transformer le premier amour pour permettre à cet amour d'être parfait. Et donc j'aurai là bien une intentionnalité réciproque, l'aller le retour. Oui. L'une regarde bien en premier lieu le bien, et puis ensuite il est modifié, transformé par l'amour de l'autre. Oui. Alors transformer ça par, au point de vue objet, sujet, vous comprendrez comment l'objet est déterminé par le sujet et comment l'objet peut conditionner le sujet. Alors c'est réciproque. Il y a quelque chose d'analogue, si vous voulez. Bon. L'intentionnalité, donc, représente, au point de vue philosophique, ce fait que je suis en présence de deux niveaux de vie, de deux niveaux d'être. Je suis en présence de degrés d'être. C'est pour ça qu'au fond, l'intentionnalité ne peut être parfaitement comprise que si je respecte l'analogie. Quand on ne respecte pas l'analogie, est-ce que l'intentionnalité peut être encore être comprise? Alors, est-ce que c'est à cause de ça qu'il y a une double intentionnalité? Ce serait peut-être la raison propre. Posez-vous la question, que peut devenir l'intentionnalité dans une philosophie hegelienne? Écoutez, là-bas, je vous en supplie, si vous suivez le cours, vous le suivez. Ne parlez pas entre vous. C'est très, très gênant pour un professeur. Le cours de critique est libre. Alors, je ne peux accepter que les gens qui suivent. Les autres cours, je leur dis. C'est très, très gênant. Depuis le début du cours, je vois très bien que vous faites des petits apartés entre vous. Je suis très heureux que vous aimiez beaucoup dans l'amour d'amitié, mais c'est quand même pas le moment. On doit essayer de suivre un cours. On suit un cours. Si vous avez des questions, levez la main et posez-les. J'ai toujours respecté quelqu'un qui pose une question. Je demande à chaque cours s'il y a des questions à poser. Alors, si vous avez des questions, vous les écrivez pour le cours suivant. Mais pas d'aparté. Je ne peux pas supporter ça. Au point de vue, c'est impossible. Un professeur qui lit son cours ne fait aucune attention si les étudiants écoutent ou n'écoutent pas. Un professeur qui essaie de penser le cours en le donnant est attentif aux étudiants. Et alors, dès qu'on voit un étudiant qui n'est plus dans la ligne, vous voyez, qui sont dans la réciprocité comme ça, et qui ne sont plus dans la ligne de l'intentionnalité, ça brouille tout. Ça fait des parasites. Et alors, les parasites sont extrêmement gênants au point de vue philosophique. Vous voyez ? Parce que je fais attention à vous. Vous faites peut-être moins attention à moi, mais moi, je fais attention à vous. C'est nécessaire parce que je vous parle. Alors, je fais très attention à l'auditoire. Ça, c'est impossible autrement. Parce que le point de vue d'un cours vit dans le point de vue de l'intentionnalité. Alors, si on ne suit pas le cours, on n'y vient pas. C'est très bien. On est libre de suivre un cours. Hein. Les procédés académiques font qu'il y a une liberté de suivre un cours. J'ai toujours dit à mes étudiants que je signerais tous les cours, même si on n'en suivait aucun. Ça m'est égal. On passe un examen si on doit en passer, mais la liberté académique permet qu'on soit libre. Un cours ou vous apporte ou ne vous apporte pas. Si ça ne vous apporte pas, qu'on ne perde pas de temps. Parce qu'en perdant du temps, on fait perdre du temps aux autres. C'est vrai ça, parce qu'on fait perdre du temps aux professeurs. Il y a des poids lourds quand on voit des gens qui ne suivent pas. Je dis ça, c'est pour tout le monde. C'est pour rappeler des principes excellents au point de vue de l'intentionnalité. N'est-ce pas? C'est le point de vue objectif et subjectif que vous voulez. C'est réel, l'intentionnalité. C'est une réalité. C'est pas quelque chose du tout de factif. Hein. C'est quelque chose de réel. On est en face d'une réalité qu'on vit. Et la vie de l'intelligence, c'est quelque chose qu'on vit. Et qu'on vit par le fait même qu'on vit. Si la vie de l'intelligence, c'est le sommet de notre vie, on assume tout le reste. C'est pour ça qu'on est si attentif à tout ce qui se passe dans un cours. Très attentif, je ne fais pas d'abstraction, on est très attentif parce qu'on est quand même dans un tissu de relations un tissu de relations intersubjectif, mais intersubjectif dans un sens où on enseigne quelque chose. Bon, alors je continue. L'intentionnalité, vous voyez, l'assimilation intentionnelle veut montrer qu'il y a des degrés différents. Des degrés différents. L'assimilation intentionnelle veut dire justement qu'on n'est pas au même degré que la réalité existante qu'on connaît. La réalité existante qu'on connaît, elle est existe, elle est en dehors de moi. Tandis que l'intentionnalité, elle est à l'intérieur même de ma connaissance. Assimilation intentionnelle. C'est mon intelligence qui assimile la détermination de l'autre et qui l'assimile progressivement, qui met du temps à l'assimiler, mais qui l'assimile progressivement. Et dans le but de faire que cette détermination de l'autre soit moi, soit un avec mon intelligence. C'est ça qu'il faut saisir. Alors, qui dit assimilation intentionnelle dit nécessairement dépendance à l'égard d'un autre, orientation à l'égard d'un autre. Et c'est là où je me pose la question, posez-la au moins dans votre cours, sans nécessairement la résoudre, il faut de temps en temps se poser des questions, même si on ne les résout pas tout de suite. Posez-vous la question, est-ce que le simple fait de respecter des degrés différents n'implique-t-il pas une connaissance analogique? Et est-ce que la pensée dialectique, qui justement est l'inverse de la pensée analogique, peut-elle encore avoir l'intentionnalité? Alors ça, c'est un très gros problème, voyez, parce que nous passons de la pensée hegélienne à la pensée phénoménologique. Dans la phénoménologie, au moins de Husserl, on voit des divers degrés. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, par ces différents degrés, une redécouverte d'une analogie? Alors que quand vous êtes en face d'une pensée purement dialectique, à la manière de Hegel, il n'y a pas d'intentionnalité possible. C'est la grande faiblesse de la dialectique hegelienne. C'est qu'il n'y a pas d'intentionnalité possible. On ne peut pas penser une intentionnalité. C'est la réalité elle-même. L'esprit est Dieu. L'esprit est la pensée. Ça ne fait qu'un. Il n'y a plus aucune division entre les deux. Parce que c'est uniquement le point de vue de la vie. Alors là, il faut se poser la question. Parce que c'est important, au point de vue philosophique, quand il s'agit de comprendre ce que c'est que l'intentionnalité. Oui, ce qui n'est pas commode, hein, c'est très difficile de poser ce que c'est que l'intentionnalité. Dans un bon examen, je vous poserai ce que c'est que l'intentionnalité. Alors à ce moment-là, je verrai si le cours d'aujourd'hui a été suivi, si vous avez regardé telle ou telle chose pour essayer de comprendre ce que c'est que l'intentionnalité. Parce que c'est vrai que c'est difficile de comprendre ce que c'est que l'intentionnalité. On voit très bien que notre vie humaine est un tissu d'intentionnalité. Je suis lié à des tas de choses. Et on doit ordonner ces intentionnalités. Quand elles commencent alors à se confondre avec le réel, ça ne va plus. Et au fond, toutes les confusions, c'est ça. C'est le passage de l'intentionnalité au réel, direct. Et quand ça ne marche plus très bien au point de vue connaissance, on confond les imaginations et le réel. On confond l'intentionnel et le réel. Et distinguer l'intentionnel du réel implique toujours le point de vue du jugement d'existence, qui montre toute la distance qui existe entre la connaissance du réel et l'intentionnel qui est vécu intérieurement. L'intentionnel, c'est le vécu. Il est vécu en moi. Il n'est pas dans le réel. Il est vécu en moi. C'est moi-même qui le réalise. C'est le propre de l'esprit de réaliser ces réseaux d'intentionnalité. C'est le propre de la connaissance imaginative de réaliser ce réseau d'intentionnalité. C'est le propre de la connaissance sensible de réaliser un réseau d'intentionnalité. Et quand vous êtes au niveau de la vie végétative, ce réseau existe du côté virtuel. La semence contient virtuellement le vivant adulte. Tout de suite. Mais d'une intentionnalité, vous voyez, qui n'est plus vécue consciemment. D'une intentionnalité qui est uniquement au niveau virtuel. Mais qui montre bien là la différence qui existe entre la vie et l'être. Si je confonds l'être et la vie, je ne peux plus expliquer comment la semence contient virtuellement le vivant. Alors j'aurais comme en disant, mais la semence n'est pas le vivant, vous voyez. Et tout le problème de l'avortement, il est là. Il faut bien comprendre. C'est de fait. C'est que, confondant la vie et l'être, je dis, il est dans un état embryonnaire, ce n'est pas encore un homme. Mais est-ce qu'il a l'intention d'être un homme? Est-ce qu'il y a une intentionnalité d'homme? S'il y a une intentionnalité d'homme, il est déjà un homme. Alors qu'on dira comme raisonnement, non, il n'est pas encore. Oui? C'est très curieux, parce que tous les problèmes relèvent d'une confusion fondamentale entre le point de vue vie et être. Si je confonds vie et être, je ne peux plus comprendre l'intentionnalité propre du vivant, dans ce qu'il a de tout à fait primitif. Dans ce qu'il a tout à fait de primitif, il contient tout un développement. Virtuellement, pas en acte, mais virtuellement, il contient tout un développement. Tandis que, au point de vue, si je fais la confusion entre être et vie, je ne peux pas le voir. Alors, le propre d'une pensée idéaliste et dialectique est de supprimer l'intentionnalité. Là, il y a un problème donc très important au point de vue critique. Réfléchissez-y, essayez de voir toutes les connexions. Il y a un champ d'action très très important. Alors, nous saisissons ici, nous saisissons au niveau critique le moment le plus fondamental de l'intentionnalité intelligible ou intelligé. Le vécu de l'intelligence dans ce qu'il a de premier. C'est cette assimilation intentionnelle. Cette assimilation intentionnelle qui consiste justement à saisir, à toucher les diverses déterminations de la réalité. Et à devenir ces diverses déterminations. Je deviens ces diverses déterminations. Alors, essayons de préciser. Quelles sont ces déterminations, d'une part, et comment se fait cette assimilation? Alors, c'est un très gros problème. C'est le problème, peut-être, au point de vue critique, le plus difficile. Il faut l'aborder, même si on ne comprend pas entièrement. Il faut l'aborder, il faut au moins comprendre qu'il y a là un problème très, très fondamental, ce problème de l'assimilation intentionnelle qui est au cœur de toute ma vie intellectuelle. Toute ma vie intellectuelle. Alors, si j'empoisonne l'assimilation intentionnelle, tout le reste est empoisonné. Tout le reste est empoisonné, forcément, parce que c'est au cœur, c'est la source. C'est la source à partir de laquelle tout le reste va pouvoir se comprendre. Je l'ai déterré, hein. C'est pour ça que je dis bien que c'est une source. C'est quelque chose qui est vital en moi, cette assimilation intentionnelle. Je n'en ai pas conscience immédiatement, caché. Cette assimilation intentionnelle regarde ce qu'il y a d'assimilable dans le réel, dans la réalité existante. Qu'est-ce qu'il y a d'assimilable dans la réalité existante? Qu'est-ce qui est non assimilable et qu'est-ce qui est assimilable? Il faut, au point de vue critique, faire le discernement. Qu'est-ce qui est non assimilable? C'est cette réalité en tant qu'elle est autre. L'autre comme tel ne devient jamais le même. Ça, c'est bien évident. Comment il ne serait plus autre? Et il est autre en quoi? En tant qu'il existe. Il est autre dans son exister. Puisqu'il existe, il est autre que moi. Jamais son exister sera mon exister. La connaissance n'est pas au niveau de l'être. Elle est à un autre niveau. Elle n'est pas au niveau de l'exister. N'oublions pas, faites attention, n'oublions pas que cette analyse que nous faisons présuppose le jugement d'existence, ceci est. Et dans le jugement d'existence, j'ai affirmé que ceci est, cet exister est autre que moi. Eh bien, je peux revenir à cela en disant cet exister qui est autre que moi, eh bien, il est quelque chose qui résiste toujours. C'est-à-dire qu'il est inassimilable. Il ne peut pas être assimilé. Il est inassimilable. L'exister comme tel de l'autre. Mais dans cette réalité existence, qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a des qualités.
il y a une quantité, ça je peux très bien le savoir. Il a des relations. Il y a une capacité de passion, une capacité d'action. Autrement dit, je décris cette réalité existante.
Décrivez cette réalité existante, vous apercevez de tout ce qui est assimilable.
Je peux connaître ses qualités, je peux connaître sa quantité, je peux connaître sa capacité de réaction, d'action ou de passion, je peux connaître qu'il est mesuré à tel moment, et ainsi de suite. Je cherche toutes ces déterminations qui sont assimilables, que je peux connaître. Et ça, l'expérience, hein, c'est pas un a priori, c'est l'expérience. Je regarde n'importe quelle réalité qui est en face de moi, je me regarde moi-même, puisque je pense, mais je suis autre que ma pensée. Et du fait même que je suis autre que ma pensée, je peux donc me regarder moi-même. Je peux regarder les diverses qualités qui sont en moi, les diverses qualités qui sont en dehors de moi, les diverses quantités, et ainsi de suite. Qu'est-ce que je vois progressivement? Que je suis en face, en effet, de la table des catégories. C'est très curieux. C'est un fait. Je ne peux pas nier ça. C'est un fait. Toutes les déterminations que vous voyez dans l'autre, poussez-les jusqu'au bout, vous arrivez aux 10 catégories. Et vous voyez bien qu'il y a quelque chose que je n'assimile pas, c'est son exister. Et son exister rejoint bien dans les catégories de la substance première. La substance première est inassimilable. Vous savez, comme dans la pharmacie, il faut faire les produits internes et externes. Là, vous bien citer là. Vous pouvez mettre en rouge, hein, la substance première. C'est inassimilable. Si vous l'assimilez, vous crevez. C'est très dangereux. Ça ne va plus du tout. C'est inassimilable. Vous ne pouvez pas assimiler l'exister de l'autre. Impossible. Tandis que vous assimilez tout le reste. Toutes les autres déterminations sont assimilables. Toutes. Et ces déterminations assimilables, qu'est-ce que c'est? C'est justement ces diverses déterminations de la réalité. C'est donc les diverses formes, ce que sont les déterminations, les diverses formes de cette réalité, les diverses formes indivisibles, premières de cette réalité. Et on l'appellera quiddité, c'est-à-dire les diverses manières dont cette réalité existante peut être touché par l'intelligence. C'est très curieux, hein, de voir ça. Vous avez 10 manières de regarder une même réalité. Il n'y en a pas d'autres. Depuis Aristote, on n'en a pas ajouté. Cherchez, si vous en ajoutez, vous aurez le prix Nobel de philosophie, n'est-ce pas, parce que vous trouverez une 11e manière de regarder la réalité. C'est quand même pas mal. C'est très curieux de voir que c'est pas parce que Aristote a dit qu'on doit rester à 10. Mais cherchez bien, les catégories nous donnent les contacts différents que j'ai par rapport à la même réalité. Je sais très bien que la 10e catégorie est un fourre-tout. On est fatigué d'analyser, alors dans la 10e on met tout. Et la 10e c'est l'habitus, vous savez bien, pas l'habitus qualité, l'habitus très particulier c'est la voix. Et c'est propre à l'homme. Toutes les autres catégories ne sont pas propres à l'homme. Mais la 10e est propre à l'homme. Il y en a une qui est propre à l'homme. C'est que l'homme est capable d'user d'une chose, et en usant d'une chose, il est changé. Remarquez qu'il y a une petite projection là-dessus sur l'animal domestique. Vous avez déjà vu des chiens à qui ont mis un petit habit. Quand il fait froid, vous voyez, c'est un habitus. C'est l'habitus, mais il ne l'a pas mis lui-même, hein. Un autre qui l'a mis. Alors, parce que c'est un autre qui l'a mis, il y a un petit habitus qui vient courir, parce qu'il a froid, pauvre petite bête. Alors, il faut faire attention. Alors, ce chien a en plus des 9 catégories, il y a la 10e catégorie, mais grâce à son maître, ou à sa maîtresse, c'est grâce à ça qu'il a une catégorie nouvelle. Il a une possibilité d'être revêtu de quelque chose qui lui donne une importance particulière.
Alors, c'est la dixième catégorie, c'est ça. Pour que vous compreniez la dixième catégorie, vous la comprenez tout de suite quand c'est par rapport au chien, vous voyez, mais par rapport à l'homme, vous voyez, le lien qui existe entre l'homme et son outil. Le lien qui existe entre la pipe et son fumeur. C'est sacro-saint, ce lien. Alors, ça, c'est un lien, c'est une catégorie. Alors, on met tout dans cette catégorie-là, vous voyez. Parce qu'il y a des quantités. On pourrait développer ça. On pourrait développer cette dixième catégorie. On pourrait la développer parce que, de fait, les liens ne sont pas tout à fait les mêmes et ont des modalités différentes. Mais il me semble bien que nous sommes là en présence de ce contact de l'intelligence dans ce qu'elle a de plus pénétrant pour saisir les déterminations diverses du réel, les quidités différentes, c'est-à-dire les formes différentes dans lesquelles l'être se présente à moi. Directement, sans induction, directement, immédiatement, je saisis directement ces dix modalités, ces quidités de la réalité. Je les saisis, donc mon contact avec le réel, ce n'est pas l'être, c'est la forme. Le premier contact avec le réel, c'est la forme. L'être, c'est le jugement d'existence. Vous voyez, le contact élémentaire avec la réalité, c'est la forme. Ça explique beaucoup de choses, vous voyez, comme c'est difficile, quand on a saisi la forme, de revenir à l'être. Parce que c'est tellement plus facile de rester au niveau des formes. C'est tellement plus facile de rester au niveau des catégories, c'est propre les catégories. Je suis dans un domaine univoque. C'est très très propre, c'est très net. L'être, c'est tellement confus, on n'y comprend plus rien du tout. Alors, pourquoi revenir à l'être ? Ce serait tellement mieux. Le jugement d'existence m'ouvre la porte aux catégories. Mais les catégories, je dis qu'elles sont élémentaires, mais c'est un élémentaire qui est supérieur à tout, et puis c'est beaucoup plus clair. Il faut bien comprendre à la séduction de cette opération d'assimilation qui me permet de toucher les diverses formes de la réalité, les dix modalités particulières de l'être, les dix formes particulières de l'être. Alors, ça, je crois que nous pouvons tous saisir ça. Il y a, dans ma vie intellectuelle, au-delà du jugement, d'une certaine manière, ou infra, ça dépendra comment on le regardera, au-delà du jugement, il y a une saisie directe du nous à l'égard des dix modalités de la réalité. Les dix formes par lesquelles je touche cette réalité et j'atteins cette réalité. C'est ce qu'on appelle les dix catégories. Ce qu'on appelait les dix catégories. Vous voyez, si je les appelais du côté critique, je ne dirais plus catégorie. Je dirais plutôt les dix modalités ou les dix formes dans lesquelles la réalité se présente à moi. La réalité se présente à moi sous dix déterminations différentes, irréductibles les unes par rapport aux autres. Alors, le très gros problème, c'est de voir comment je puis assimiler cela. Je constate cette assimilation, je l'ai constaté. Je constate cette assimilation. Mon intelligence est capable d'assimiler, c'est-à-dire de toucher ces diverses modalités de l'être, ces diverses déterminations d'être. Mais comment se fait, c'est le comment. Comment se fait, et la logique, la critique doit se poser cette question-là. Comment se fait cette assimilation ? Puisqu'il y a assimilation, il faut nécessairement qu'au point de départ de cette assimilation, il y ait la présence dans l'intelligence, dans le nous. Il y ait la présence de ces formes. Autrement, je ne pourrais pas les assimiler. Il faut que mon intelligence soit donc déterminée dès le point de départ à l'égard de ces diverses formes, qu'elle connaît, qu'elle exprime et qu'elle dit. En les assimilant, je les deviens, je les porte en moi et je suis capable de les dire. Donc en les assimilant, je les possède au-dedans de moi-même. Les possédant au-dedans de moi-même selon un mode intentionnel, je dirais donc que je les possède
dans une forme intentionnelle qu'on appelle le concept. Voilà l'apparition et la naissance du concept.
Le concept, c'est ce fruit profond de cette assimilation intentionnelle qui connaît ces diverses déterminations premières du réel.
Mais comment expliquer ce concept ?
Ce concept, pour pouvoir être le fruit de cette assimilation, et pour pouvoir être la présence de cette fluidité qui existe dans la réalité existante au plus intime de mon assimilation intentionnelle, il faut que ce concept détermine, avant d'être le fruit, détermine mon assimilation.
Et c'est ce qu'on appellera, si vous voulez, la forme intentionnelle première. Saint Thomas l'appellera la species impressa.
Ça, il tient des arabes. La species impressa.
Et l'autre, la species, le concept, la species expressa. Peu importe les mots.
Je vous les donne parce que c'est intéressant de voir comment Saint Thomas donne la species.
Species, hein, n'oubliez pas, ça traduit eidos. Ça traduit donc forme.
C'est pour ça que j'aime mieux dire tout simplement la forme intentionnelle. C'est plus facile à comprendre. Qu'est-ce que c'est que le concept ? C'est la forme intelligente. Fruit de mon assimilation, regardant le point de vue de la fluidité.
Alors, le gros problème, c'est de voir comment cette assimilation intentionnelle qui produit le concept, au-dedans de moi-même, pour toucher le point de vue de la fluidité, comment mon intelligence est déterminée. Que nous verrons la convention.
Merci. Très bien.